RFI, grand reportage.
Sébastien Duhamel.
Quelques mois après les événements de mai 68 en France, c'était au tour du Mexique d'être agité par un mouvement étudiant. Il allait culminer le 2 octobre 1968 avec le massacre de Tlatelolco où des centaines d'étudiants étaient assassinés par l'armée. 50 ans après, et alors que les Mexicains s'apprêtent à commémorer cette période tragique de leur histoire, notre correspondant Patrick John Buff revient sur ces événements et leurs conséquences sur le Mexique actuel.
La masacre en Tlatelolco nunca habremos de olvidar donde estudiantes le dieron su vida a la libertad, donde estudiantes le dieron su vida.
La date du 2 octobre 1968 est gravée en lettres de sang dans la mémoire des Mexicains. 10 jours avant l'inauguration des Jeux Olympiques, le président Gustavo Díaz Ordaz décidait d'en finir avec le mouvement des étudiants qui, depuis plus de 2 mois, descendait dans les rues de Mexico pour manifester contre la politique autoritaire et répressive du PRI, le parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir. C'était le 2 octobre, en fin d'après-midi. 8000 étudiants s'étaient rassemblés pacifiquement sur la place des Trois Cultures de Tlatelolco, au centre de la capitale. À la fin du meeting, des francs-tireurs ont commencé à ouvrir le feu sur les participants. À ces tirs, dont ils étaient aussi la cible, les soldats ont riposté. Mais c'est sur la foule qu'ils ont déchargé leurs armes, provoquant une fusillade meurtrière. Très engagée dans le mouvement étudiant, Ana Ignacia Rodriguez, alias La Nacha, était présente lors du massacre.
Nos colocamos exactamente en la parte de enfrente del edificio Chihuahua.
On s'est placé exactement en face de l'édifice Chihuahua, là où avait lieu le meeting. Ceux qui étaient en train de parler disaient qu'il n'y avait pas de problème, que l'on reste tranquille, parce que le meeting était autorisé. Mais on a commencé à entendre un mouvement qu'on connaissait bien, parce que l'armée était dans toute la ville. Il semblait qu'on vivait en état de siège, mais on était déjà habitué à ça. De sorte que lorsqu'on a commencé à entendre des bruits de l'armée qui s'approchaient, on est resté tranquille parce qu'on supposait que c'était permis. C'est alors que j'ai entendu un hélicoptère voler au-dessus de nous. Et je me souviens très bien que de là ont été lancés les feux de Bengale. C'était un signal pour donner l'ordre de tirer pour tuer. C'est ce que j'ai appris après. Et après, moi j'ai vu sortir du troisième étage une lumière. Une décharge. Je crois que c'était une mitraillette ou quelque chose comme ça. Et j'ai commencé alors à voir tomber mes compagnons à côté de moi. Je ne pouvais pas croire que c'était des balles réelles. Mais oui, c'en était, parce que je voyais comment tombaient les corps. Alors, nous avons couru vers les ruines de Tlatelolco. Puis nous avons continué à quatre pattes, parce qu'on entendait le sifflement des balles. On entendait les gens allant dans tous les sens, les bottes des militaires, les cris, le tumulte, les gémissements. Et c'était terrible de voir comment le sol était couvert de corps. Ça a été un impact très fort de voir que c'était effectivement de vraies balles et qu'ils étaient en train de tuer les étudiants.
De cuerpos fue muy fuerte, ¿no? El impacto de ver que sí eran balas de verdad y que estaban matando a los estudiantes.
Si la Nacha, alors étudiante de l'UNAM, l'Université nationale autonome du Mexique, a finalement réussi à sortir indemne de cette embuscade, tous n'ont pas eu sa chance. La fusillade a fait de nombreux morts, mais jamais on n'a su combien de personnes ont été assassinées ce soir-là. Selon les autorités, une quarantaine. En réalité, plus de 300 étudiants seraient tombés sous les balles des soldats, sans compter les nombreux disparus et les blessés qu'a provoqué cette attaque Carmeille, à la suite de laquelle des centaines d'étudiants ont été arrêtés et emprisonnés, comme ce fut le cas de La Nacha. De cette manière, le gouvernement avait atteint son but, mettre fin à ce mouvement qui avait surgi le 22 juillet. Un mouvement étudiant et populaire, dont l'un des dirigeants, Gustavo Gordillo, nous rappelle ce qu'il était.
Je pense que le mouvement est fondamentalement...
Je pense que le mouvement a été fondamentalement un mouvement anti-autoritaire et très opposé à la figure du président mexicain qui, à ce moment et durant toute cette époque, condensait d'une certaine manière le pouvoir de l'État et le pouvoir d'une classe politique qui était à chaque fois plus insensible aux demandes des gens. C'était donc un mouvement anti-autoritaire. Il y avait des marxistes, des trotskistes. Mais le mouvement en soi, je le considère très peu idéologique et beaucoup plus tourné vers des demandes qui, par la suite, ont ouvert les portes à un peu plus de démocratie et à une meilleure défense des droits de l'homme. Mais à ce moment-là, en 1968, on n'avait pas d'idées précises. Il y avait bien quelques groupes qui n'étaient pas majoritaires, qui, eux, voulaient faire une révolution socialiste. Il n'y avait non plus pas d'autres courants importants qui aient dit « Nous voulons construire des partis politiques et en finir avec le système du parti unique ». Non. Il y avait simplement la sensation que ce genre d'autoritarisme politique comme on le connaissait au Mexique devait changer.
Pour le directeur du centre culturel universitaire de Tlatelolco, Ricardo Rafael, ce mouvement n'aurait pas pu surgir sans l'influence du monde extérieur et sans les révoltes des étudiants qui, en 1968, avaient éclaté dans de nombreux pays.
Alors, je crois que ces mouvements d'étudiants parmi le monde ont été des variables très importantes pour ce qui s'est arrivé au Mexique. Peu avant 68, le Mexique a décidé d'ouvrir ses ports. Kennedy, il est venu en 63, et le président à l'époque, López Mateos, il a décidé d'ouvrir les fenêtres, pas les portes, les fenêtres, pour que le monde voit le Mexique, le monde. Et bon, politiquement, cette décision s'est traduite en faire les Jeux olympiques au Mexique en 68. Alors, il fallait ouvrir les fenêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert les fenêtres et le monde, il est rentré au pays. La musique, mai 68, Prague, ce qui s'est passé en Tokyo, Vietnam, San Francisco, tout ça était la discussion principale des jeunes gens ici. Sans l'étranger, c'était impensable, 68. C'est-à-dire, le Mexique s'est globalisé à travers les 68. Et la musique, Marcus comme le philosophe de l'époque, tout ça, c'était pas mexicain. C'était le monde. Et les gens, à l'époque, ils voulaient être citoyens du monde. Les Beatles, c'était là. Les rock pour la première fois. Et alors, je crois que c'est le monde qui a produit 68 au Mexique. Mais le gouvernement n'a pas compris ça.
Effectivement, durant plus de deux mois, le président Díaz Ordaz, qui refusait tout dialogue, a fait la sourde oreille aux revendications des étudiants en grève. En plus, les Jeux Olympiques devaient être inaugurés le 12 octobre. Il était donc impératif pour le gouvernement qu'ils se déroulent dans le calme pour montrer au monde entier que le Mexique jouissait d'une grande stabilité. Mais les étudiants venaient mettre en péril cette image, d'où la réaction des autorités qui les ont rapidement accusés de faire partie d'un complot communistes financés par l'extérieur dans le but de boycotter les JO. Le 1er septembre, le chef de l'État les mettait en garde depuis la tribune du Congrès.
Nous avons été tolérants jusqu'à l'excès, ce qui nous a valu des critiques, mais tout a une limite et nous ne pouvons pas permettre que l'ordre juridique continue à être rompu de manière irrémédiable, et ce, aux yeux de tous.
10,000 soldados salieron de los cuarteles con tantos tanques de guerra que daba horror.
Mais avant même cet avertissement, le gouvernement avait déjà lancé l'armée dans les rues. Des tanks avaient occupé le Zócalo, la place centrale de Mexico. Des soldats allaient envahir la cité universitaire et l'Institut Polytechnique National. Et face aux manifestations incessantes des étudiants, la répression s'intensifiait. Une répression qui n'était d'ailleurs pas nouvelle, puisque durant les années précédentes, les Mexicains avaient déjà subi la violence du régime, comme le souligne le cinéaste Oscar Menéndez, qui, après avoir filmé ces événements, du quitter le Mexique pour se réfugier en France.
Et nosotros traíamos una historia muy dura de represión en México desde antes, ¿no?
Nous autres, on traînait derrière nous une histoire très dure de répression depuis longtemps déjà. Quand arrivent les événements de 68 au Mexique, il y a déjà beaucoup de prisonniers politiques, de sorte qu'il y avait un mécontentement dans le pays à cause de ce qui se passait. Parce que dans cette période de Díaz Ordaz, ils avaient tué beaucoup de gens. Il n'y avait pas seulement des prisonniers, ils avaient aussi assassiné des leaders paysans, des dirigeants ouvriers, des enseignants. C'était donc une situation très dure. Alors, quand arrive la provocation du gouvernement qui frappe les étudiants et les professeurs, lors d'un incident sans importance entre deux écoles, il fait table rase et il provoque le conflit.
A los estudiantes y a los maestros, así hacen tabla rasa
Après le massacre de Tlatelolco, la répression n'a pas cessé. Des centaines d'étudiants ont été persécutés, emprisonnés ou contraints à l'exil. Ils ont donc connu une cuisante défaite. Mais ça ne signifie pas pour autant que le mouvement de 68 ait été un échec. C'est en tout cas l'avis de Manuel Munguia, un Mexicain que RFI avait rencontré en 2008 lorsqu'il manifestait sur la place des Trois Cultures à l'occasion du 40e anniversaire du 2 octobre.
Dicen, y creo que es un error. Que el movimiento fue un fracaso, que ahí se acalló.
Ils disent, et je crois que c'est une erreur, que le mouvement a été un échec, qu'à ce moment-là, il a été réduit au silence et qu'il n'a plus avancé. Non, je crois que ça a été l'une des clés avec laquelle on a pu ouvrir la porte des manifestations populaires. Elle a ouvert la possibilité d'aller sur la place principale pour exprimer des idées et pour exprimer les inquiétudes qui étaient latentes dans de nombreux secteurs de la population. Il y a même eu des mouvements guérilleros dans le pays, parce qu'on a cherché à étouffer, à suffoquer à tel point le malaise populaire que pour certains, il n'y a pas eu d'autre voie que de recourir aux armes. Ça a donc été un détonateur pour que notre vision de la démocratie, qui était très réduite et très encadrée par un système autoritaire comme celui du PRI en 68, ait pu avancer par les avatars du destin sur des chemins que beaucoup de Mexicains ne voulaient pas emprunter.
Muy determinada por un sistema autoritario como el priista en 68, haya avanzado por digamos avatares del destino hacia caminos que muchos no querían.
En d'autres termes, les événements de 68 ont constitué pour le Mexique un avant et un après, comme l'explique Eugenia Allier, chercheuse en sciences sociales à l'UNAM.
Fue un parteaguas en esta lucha por la democracia y creo que es un movimiento.
Il y a eu un avant et un après dans cette lutte pour la démocratie. Et je crois que c'est un mouvement qui a triomphé dans le futur. Parce que finalement, le 68 mexicain, comme le mai 68 en France, par exemple, ne peut pas se comprendre sans ses vies postérieures. Les années 70 et 80 sont les moments fondamentaux du changement produit par 1968, où l'on voit cette génération se convertir en une génération importante qui va, d'une manière ou d'une autre, provoquer certains changements politiques et sociaux dans le pays. Avant 1968, la place Zocalo avait rarement été occupée pour manifester. Et d'une certaine manière, ils vont prendre possession de l'espace public. L'espace public appartient à tout le monde. Sortons dans cet espace public pour nous l'approprier. Ce sont les femmes qui sortent en mini-jupe et en talons hauts, devenant participantes de l'action politique. Ce sont des éléments importants. Un deuxième changement très important, ce sont les moyens de communication. Autrefois, ils dépendaient tous du gouvernement. C'est lui qui payait le papier. Et donc, si tu n'étais pas bien avec le gouvernement, il te fermait le journal. Et les 68ards vont aller vers les moyens de communication car ils croient que c'est ça qu'il faut commencer à changer. Il y a autre chose avec les femmes. À partir de cette année, elles vont être nombreuses à aller vers le mouvement féministe parce qu'elles croient que c'est à partir de là qu'il est possible de tout changer. Je crois qu'il y a une série d'éléments comme les syndicats, les partis politiques, les mouvements armés qui vont transformer le pays, y compris les questions culturelles. La pilule, la mini-jupe, les hippies, tout ça influe aussi sur 1968.
Incluso en las cuestiones culturales, la píldora, la minifalda, el hipismo, todo eso efectivamente está influyendo también en el 68.
No sé si es por ser después del mes de la independencia que patriotas declarados lo ven con
50 ans après, la mémoire de 68 reste encore vive, notamment chez les étudiants, même si aujourd'hui ils s'identifient plus à la disparition en 2014 des 43 étudiants d'Ayotzinapa. Un drame qui démontre une fois encore que certains des problèmes que le Mexique connaît aujourd'hui sont les mêmes que ceux de 68, comme le déplore Juan González, qui étudie à l'UNAM.
Situaciones parecidas se manifiestan en la actualidad en el país.
Des situations semblables existent actuellement dans le pays. Regardez ce qu'on vit en matière de liberté d'expression et les nombreux journalistes assassinés ou disparus dans le pays. Il faut aussi rappeler le cas des 43 étudiants qui ont disparu. Après le 2 octobre, il y a eu des morts et les corps ont disparu. Et ensuite, ils sont allés à la recherche des participants et des sympathisants pour les faire taire et pour qu'ils restent tranquilles. Avec les 43, il s'est passé la même chose. De sorte que les problèmes qu'on avait il y a 50 ans sont toujours là. Et parce que le gouvernement est incapable de les résoudre de manière pacifique, il recourt à la violence.
Face aux événements tragiques du 2 octobre, certains Mexicains considèrent qu'ils ont un devoir de mémoire.
Pavoroso y contundente,
porque es el día nacional que no se perdonó la vida, por esto y por los que faltan 2 de octubre, no se olvida.
Pour éviter que ce massacre ne tombe dans l'oubli, chaque année, les étudiants d'hier et d'aujourd'hui commémorent le 2 octobre en organisant une marche de la place des Trois Cultures au Socalo. Mais pour Eugénie Allier, il y a un autre facteur qui, depuis une dizaine d'années, contribue de manière paradoxale à la mémoire collective. C'est l'institutionnalisation du 2 octobre.
En 1998,
Cuauhtémoc Cárdenas, le maire de gauche de Mexico, décrète de manière officieuse la mise en berne du drapeau de la place Zocalo. Et la même année, l'Assemblée législative de la capitale s'inscrit en lettres d'or au martyr du 2 octobre. Et ça s'est toujours plus institutionnalisé. Au début des années 2000, avec la nouvelle réforme éducative, ces événements vont entrer dans le programme d'études de toutes les classes primaires du Mexique. Tous les enfants doivent lire ce qui s'est passé le 2 octobre et ce qui s'est passé en 1968. Ensuite vient la création en 2007 du mémorial de 68. Enfin, en 2011, le Sénat et la Chambre des députés votent une loi qui prévoit que le 2 octobre devienne l'un des jours de deuil national, ce qui implique que ce jour-là, le drapeau doit être en berne dans toutes les ambassades et représentations gouvernementales. En plus, lors du vote, il y a eu quelques 330 voix en faveur de cette initiative, aucun vote contre et aucune abstention. Ça veut dire que tous les partis politiques sont d'accord sur l'importance de 68 et du 2 octobre dans notre histoire récente. Il s'agit là donc d'un intérêt politique et d'une institutionnalisation de la mémoire. Je crois que c'est quelque chose qui ne s'est probablement pas passé dans les autres pays d'Amérique latine, qui en revanche ont réussi à ce que les responsables soient jugés. Au Mexique, c'est paradoxal. Tout le monde accepte l'importance de 68 et le caractère terrible du massacre, mais il n'y a pas de justice. L'importance
del 68, lo terrible de la masacre, pero no hay justicia.
Effectivement, à la suite du 2 octobre, les responsables de ce massacre ont joui d'une totale impunité, puisqu'aucun d'entre eux n'a été jugé ni condamné. Pas même l'ex-président Echeverría, toujours vivant, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur. C'est pour ça que 50 ans après, les anciens membres et dirigeants du mouvement étudiant, réunis au sein du comité 68 auquel appartient la NACHA, continuent à se battre pour que justice soit faite.
Nosotros a 50 años no decimos borrón ni cuenta nueva, como muchas
50 ans après, nous ne disons pas que nous allons faire table rase, comme tant d'institutions ont tenté de le faire. Nous autres, nous disons qu'il faut renforcer et continuer les jugements ici et à l'étranger, mais surtout signaler que 50 ans après, il y a plus d'impunité que jamais. Il y a eu véritablement des choses très violentes qui te disent « Qu'est-ce que tu as obtenu depuis 50 ans ?» Je dis qu'on a obtenu beaucoup de choses, mais l'impunité, elle, elle a continué. Et je ne peux rien faire de plus sinon crier, crier, crier et dire que nous voulons que les coupables soient condamnés.
Le 2 octobre prochain, les Mexicains marcheront à nouveau dans les rues de la capitale à l'occasion du 50e anniversaire du mouvement étudiant et du massacre de Tlatelolco, dont les actes de commémoration ont déjà commencé. Et une fois de plus, les étudiants scanderont le slogan « Ni pardon, ni oubli ».
Le 2 octobre ne s'oublie pas, pour la mémoire de nos frères tués ou disparus. Pas une seule minute de silence, mais toute une vie de lutte. Ni pardon, ni oubli. Prison pour les assassins. Le 2 octobre ne s'oublie pas.
Patrick John Buff, Mexico RFI.
Hoy mi pueblo no lo olvide. Que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. La sangre de tu